Manège à 3, bienvenue à vous, bienvenue à nos amis du Sud Aveyron, bienvenue pour cette toute nouvelle émission, ce nouveau magazine. Catherine, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Radio Larzac. Et à tes côtés, Manu, Radio Sainte-Afrique, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous nous sommes réunis autour de cette table pour vous faire un petit discours. Non, on va peut-être arrêter là. Ménage à trois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous attend tout au long de cette émission qui vous sera proposée normalement une fois par mois? On va essayer de tenir cette régularité. Pourquoi Radio Sainte-Afrique, Radio Larzac et Radio Temps Rodez ont-ils décidé d'unir leurs forces et leur musique pour le meilleur de la radio, on l'espère en tous les cas? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est dit, tiens, le département de l'Aveyron est un département très grand. D'ailleurs, on rappellera que c'est le 5e département en superficie de France, c'est pas rien, et que nos radios, finalement, sont aux trois pôles. Alors déjà, c'était une bonne occasion de nous réunir, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est au nord, vous êtes au sud-est, au sud-ouest.
Allez, on va dire que vous êtes au milieu et nous, on est franchement au sud.
Très bien.
Allez.
Tu le vois nous, au sud-est. Effectivement, on ne sait pas bien ce qui se passe à Rodez, à Sainte-Afrique un peu plus peut-être, ou à Rodez par la presse locale, oui.
Parce que c'est une préfecture.
C'est la capitale.
Parce qu'il y a le conseil général. Et parce que aussi peut-être ici à Rodez, le bassin de vie est de 100 000 habitants. Bon voilà, ceci expliquant peut-être en partie cela. Il faut rappeler que le département aujourd'hui abrite à peu près 275 000 âmes, hein, je crois.
À quelques chiens près.
Ouais, tout à fait. En ce qui concerne, en tous les cas, cette émission, c'est l'idée d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe à Sainte-Afrique, sur ce qui se passe à Millau, Catherine.
Un petit peu plus aussi de façon différente, parce que c'est vrai qu'on a peut-être des infos sur Rodez ou sur Sainte-Afrique, mais après, ça reste aussi des infos qui paraissent dans la presse locale, dans les médias traditionnels, je dirais, alors qu'on a tous un petit peu des points de vue différents en tant que radio associative.
Chacun donc dans cette sorte d'auberge espagnole radiophonique qu'est ce magazine Ménage à trois, on va tenter de vous apporter un éclairage sur tel ou tel aspect d'un sujet qu'on aura choisi. Ça peut être de l'actualité, mais ça peut être aussi tout autre chose que l'actualité. En l'occurrence, pour ce premier numéro, on a choisi des sujets qui sont plutôt quand même dans l'actualité, hein, faut bien le dire. Bon, il y aura d'autres numéros, je suppose, où il y aura des choses un petit peu plus intemporelles. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de proposer le premier sujet avec Radio Larzac, peut-être une petite présentation quand même de chacune des radios. Cette émission va être entendue à Rodez, va être entendue à Millau, à Sainte-Afrique. Bon, chacun connaît peut-être ses radios respectives, mais finalement, quand on va croiser tout ça, les habitants de Rodez, Radio Sainte-Afrique. Bon, normalement, on a quand même entendu parler, vous venez de fêter, Manu, vos 30 ans, c'est pas rien.
Tout à fait, au mois d'octobre, on a fêté nos 30 ans, 30 ans depuis 81, depuis le début des radios libres de l'époque. Radio Saint-Af, on émet pratiquement sur tout le sud du Tarn, on va dire, sous les Raspes, on déborde jusqu'à l'Aléron, je suppose, puisqu'il n'y a pas de relief qui nous embête.
Vous avez trois fréquences, c'est ça?
On a trois fréquences, quatre même, mais il y en a une qui est en stand-by parce que les rats ont bouffé les câbles, je suppose.
Et c'est le privilège de l'âge d'avoir quatre fréquences comme ça pour une radio de catégorie A?
Un privilège? Ben non, nous en avions cinq à une époque, du coup on en a rendu une et puis c'était pas un souci quoi.
Voilà, quatre fréquences pour arroser tout le Saint-Africain. Et est-ce que vous êtes la plus ancienne de toutes les radios locales de l'Aveyron?
Je ne pense
c'est
pas.
C'est une bonne question, merci.
Je ne peux pas te le dire là.
Alors, on va demander aux auditeurs les plus anciens qui ont suivi toute l'histoire de la radio locale en Aveyron de nous le dire éventuellement. Donc,
c'est
vous appelez.
Probable, je
non,
pense.
Ça serait. C'est marrant parce que.
C'est probable, mais je ne sais pas. Il y a eu des tentatives à des moments. C'est vrai que plein de gens essayent d'être les premiers, d'être les pionniers, de dire oui, nous, mais nous, la caravane, machin, à tel endroit et tout. Bon, j'en sais rien. Je ne sais pas. Il n'y a pas non plus une grosse importance à être le plus ancien, c'est pas ça qui est...
Non, mais ça veut dire que vous avez quand même un certain vécu et en tous les cas que vous êtes sûrement la radio la plus connue en termes de notoriété, voilà, ouais, sur le département, alors que Radio Larzac et nous-mêmes, nous sommes les petits derniers arrivés dans ce beau département du Rouergue. Radio Larzac, alors disons-le tout de suite, Catherine, c'est une radio qui est née il y a 2 ans, c'est ça ?
Alors, on a l'autorisation d'émettre un peu plus que 2 ans, donc ça va, tu t'es pas trop trompé.
Non.
En 2008, on a commencé à émettre fin 2008, donc on vient de fêter nos 3 ans, puisque c'était en novembre. Et effectivement...
Et avant,
mais avant, ça a démarré,
vous étiez avec Radio Sainte-Afrique.
Voilà.
Enfin, il y avait des émissions sur Radio
Même Sainte-Afrique. avant, c'était en 2003, où à la suite de Larzac 2003, donc Radio Larzac a décidé de voir le jour, a été fécondée, on va dire.
Voilà, c'est un point commun qu'on a avec vous, Radio Temps Rodez, c'est qu'au moment où on a voulu créer cette radio, donc suite au rassemblement Larzac 2003, on a été très aidés et tutorés presque par Radio Sainte-Afrique. Enfin, c'était le cas de Radio Larzac et ça a été le cas de Radio Temps Rodez également. Je voulais juste dire un petit point, parce que tu parlais de notoriété. Ce qui est assez marrant, c'est que du fait qu'on s'appelle Radio Larzac, on est très connu.
Et oui.
Et il y a même beaucoup de gens, y compris dans le coin, qui pensent qu'on existe depuis très longtemps.
Alors ça, ce n'est pas le privilège de l'âge, mais de l'histoire, tout simplement.
Du
et c'est une marque, hein, le Larzac, contrairement à ce que...
Ils ont dû payer cher. Hein.
Alors on le voit un petit peu partout, puisque vous n'êtes pas sans le savoir. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, ce documentaire sur tous au Larzac. Non, vous n'avez pas entendu parler, bien sûr. Mais voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. 2 mots quand même, justement, là-dessus, c'est intéressant d'avoir l'avis de ceux qui vivent tout proche ou même qui sont sur le Larzac, sur tous au Larzac, Catherine.
Tous au Larzac, ça passe en ce moment à Millau. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'avant-premières avant, donc quasiment tout le monde l'avait vu avant qu'il passe au cinéma. De ce que j'en ai compris, c'est un film qui fait à peu près l'unanimité, ce qui est assez rare sur les films qui sont produits ou les documentaires qui sont produits sur le Larzac. Les anciens sont assez contents de ce film, et puis les gens qui ne connaissaient pas l'histoire du Larzac sont aussi assez contents d'apprendre en fait ce qu'a été la lutte du Larzac.
Bon, est-ce que ça va donner des idées à d'autres? On ne sait pas. Les indignés pourraient s'inspirer de tous au Larzac, peut-être. Est-ce que c'est la suite, d'ailleurs? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'on peut dire que les luttes qui ont eu lieu sur le Larzac ont servi de modèle quelque part à ces indignés?
Moi, à mon avis, d'ailleurs on pourra en parler dans mon sujet, je pense que les luttes peuvent toutes se nourrir les unes des autres. Après, on ne sait jamais bien ce qu'on hérite, de qui, de quoi, de comment, puisque quelque part on l'a intégré en nous. Enfin, si on connaît la lutte du Larzac, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne la connaissent pas, y compris à Millau, y compris sur le Larzac, qui ne savent pas exactement ce que c'était. Mais
surtout les jeunes, hein, parce que nous on fait un peu déjà, hein, on est près de la carte vermeille, mais il faut quand même savoir qu'il y en a qui n'ont pas du tout vécu cette histoire et qui est quand même assez, ou alors édulcorée dans l'histoire classique, je veux dire les manuels scolaires, ou alors elle est un petit peu oubliée. Et là je ne parle pas du département de l'Aveyron, là on ne peut pas l'oublier, mais je parle de l'extérieur bien sûr. Bon, on n'est pas là pour faire une émission sur ce documentaire, même s'il est particulièrement intéressant. Donc Radio Larzac, qui émet depuis les pentes du Larzac, hein, ou juste au-dessus de Millau. Comment vous vous définissez géographiquement? Vous êtes
Ils sont sur le plateau.
C'est carrément le plateau, d'accord.
On est sur le plateau du Larzac et on a 2 fréquences, dont la fréquence principale est sur Millau, avec une antenne au site des Combèches, c'est-à-dire à peu près à Brunas, pour ceux qui connaissent, et une autre fréquence qui reprend le signal plus dans le sud du plateau, ce qui nous permet, quand ça diffuse bien, parce qu'on a souvent des problèmes avec cet émetteur du sud, ça nous permet d'émettre jusqu'au Caylar.
Et oui, on vous entend sur l'autoroute. Hein,
et notamment. Là, en venant à Rodez, puisqu'on enregistre cette première émission à Radio Temps Rodez, en venant à Rodez, je peux dire qu'on entend Radio Larzac jusque sur le plateau du Lévézou.
Merci pour cette présentation. Donc, je vais vous dire en 2 mots que Radio Temps Rodez est née il y a beaucoup, beaucoup d'années. Mais en fait, elle n'émet officiellement et de façon pérenne, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que depuis un an et demi. Mais l'association Radio Temps existe. Elle est née dans les locaux d'un lycée connu ici sur Odesse qui s'appelle le lycée Kerb et de la volonté de son proviseur de l'époque qui en fait voulait faire, et pendant longtemps ça a été le cas, un espèce de laboratoire radio à destination du monde scolaire, de l'éducation, donc en priorité pour les élèves de ce lycée. Et puis, eh bien, les choses étant ce qu'elles sont, l'évolution de la radio est allée vers quelque chose de beaucoup plus grand, vaste, universel, même si ça reste quand même aujourd'hui cantonné donc à cette zone géographique qui est le Grand Rodez et un peu le nord aussi du département vers l'Aubrac. Mais nous sommes, on a juste un émetteur, donc voilà, pour l'instant on démarre modestement. Peut-être un jour on aura un réémetteur, mais bon, c'est pas le but, comme disait Manu, que d'aller dans l'inflation. Donc voilà, on est bien aussi. Puis il faut rappeler pour toutes nos radios, les trois, Radio Sainte-Afrique, Radio Larzac et Radio Temps Rodez, il y a aujourd'hui cet outil magnifique.
J'en reviens aux histoires d'émetteurs, puisque tu nous m'as lancé
tout à l'heure.
Oui,
tout à fait.
Un émetteur sur Rodez va couvrir certainement plus de zones géographiques que trois émetteurs dans le sud d'Aveyron.
Moi, je ne suis pas technicien FM, onde hertzienne, comment ça part. Non, mais c'est vrai, oui, tout à fait. On est à 600 mètres d'altitude déjà. On bénéficie d'un point stratégique, géographiquement parlant. Bien qu'au-dessus de nous, on a encore des 1300, 1400 mètres. Hein. Là, on ne les atteint pas sur le... Enfin, si, on passe sur le plateau du Larzac. Si, on en profite quand même pour saluer nos amis qui nous entendent jusqu'à Nasbinal. Le seul problème, c'est la vallée du Lot.
C'est pas le plateau du Larzac, Nasbinal.
Non, pas tout à fait. Mais alors, c'est intéressant, justement, ce grand écart. Et c'est là qu'on va peut-être essayer de recoller un petit peu les morceaux, si tant est qu'ils aient besoin d'être recollés. Nous avons une communauté de destin qui s'appelle le département de l'Aveyron. Voilà pourquoi on va essayer de retranscrire cette vie-là, Catherine.
On aura donc deux communautés de destin, puisque la première communauté de destin, comme tu l'appelles, c'est le fait d'être des radios associatives.
Oui, exactement. Ouais,
c'est ce qui nous rassemble ici.
Mais attention, ce n'est pas suffisant, car les radios associatives, il y en a, sont à vocation plutôt commerciale. Donc là, on ne rentrera pas dans le détail des catégories, mais il y a des radios associatives telles celle aujourd'hui qui est hégémonique, la radio dominante de la région, tout le monde l'aura reconnue, qui arrose aujourd'hui une trentaine de départements, c'est une radio associative. Donc il ne faut pas oublier qu'une radio associative, ce n'est pas la condition unique et nécessaire. Il faut aussi ne pas faire de publicité pour être dans notre catégorie.
Il y a des petites lettres aussi à coller.
Voilà. A, B, C, D, services publics, etc.
Catégorie A. Voilà. Donc, sans recette publicitaire, moins de 20%, on ne va pas rentrer dans le détail. Et surtout, une certaine liberté de ton.
Voilà, c'est ce que nous allons donc essayer de faire passer par l'entremise de cette émission, de ce fabuleux magazine que l'Aveyron entier nous envie d'ores et déjà, qui s'appelle Manège à 3. Si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Radio Saint-Af, Saint-Af, c'est bien déjà, ça pose déjà, hein, quand on est élu de comme ça, on dit plus Saint-Afrique, c'est trop long.
C'est Saint-Af. Oui, c'est trop long. Bon, mais d'ailleurs, il y a un slogan qui va avec. C'est Radio Saint-Af, la radio qui n'a plus de fric.
Oui, c'est bien. C'est ce qu'on appelle une allitération en F.
Voilà.
C'est pas mal. Radio Lar, non. Donc on dira toujours Radio Larzac.
C'est plus fromage là-bas.
Je préfère mon père ou ma mère.
Et nous, on a décidé RTR. Parce qu'on est feignants aussi un peu. D'ailleurs, je ne sais plus, c'était un écrivain qui disait que les Aveyronnais étaient à moitié Corse, à moitié Auvergnat. Donc c'est pour ça. Ça doit ressortir quelques endroits. Donc on dit RTR, mais c'est Radio Temps Rodez. Et je vous propose, puisqu'on a fait les présentations autour de cette table, eh bien de commencer en musique, de poursuivre avant vraiment de rentrer dans le premier sujet que nous allons découvrir avec Catherine. On va écouter Les Ogres de Barbac. Voilà, une petite fleur pour nos auditeurs, c'est ce qu'on leur fait tout de suite, c'est le titre des Ogres de Barbac qui seront dans l'Aveyron, à Rodez, le 9 décembre.
Wali, 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 wali. Tiens-moi la main, petite fleur, usons nos pieds sur le bitume. Allons faire le tour de nos cœurs, de nos années qui se consument, du quartier, du bois et du reste. Wali, 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 chez toi mille douceurs. Portant ton petit poids de plume, j'ai souvent calmé la douleur de tes tracas boborumes, des soucis dont je te déleste. Bien sûr, tu m'as donné sans l'heure, oui, bien sûr, ensemble nous eûmes plus qu'il ne fallut de bonheur pour anéantir l'amertume de notre vie belle et modeste. Demain maudit sonnera l'heure, comme pour tout père je présume de te voir partir à me seul, au bras d'un garçon qui assume de savoir que je le déteste. Pauvre père jardinier en pleurs, mon âme triste qui s'embrume, petite fille, petite fleur, ainsi notre vie se résigne, des joies, des peines et quelques gestes. Tiens-moi la main.
Petite fleur, les ogres de Barbac, le 9 décembre, c'est à l'amphi de Rodez. Qui dit mieux, on verra au cours de cette émission, qui, je vous le rappelle, s'appelle Ménage à 3, Radio Saint-Af, Radio Larzac, RTR Sunis, pour vous offrir le meilleur maintenant de Radio Larzac, Catherine.
Meilleur, n'exagérons rien.
Bon, écoutez, moi j'aime bien les lancements comme ça, un petit peu enflés, hein. Ça fait toujours plaisir de se faire du bien, hein.
Ben oui, moi je voulais vous parler, je pense qu'à Rodez et à Saint-Afrique, vous en avez quand même entendu parler, de la grève des postiers qui a
oui.
eu lieu à Millau au mois de novembre. Donc 12 jours de grève de postiers, on peut dire les facteurs, mais il n'y avait pas que des facteurs, puisqu'à la poste, il n'y a pas que des facteurs qui travaillent quand même, il y a aussi des gens qui préparent, qui trient les courriers.
Donc, des syndicalistes français très connus.
aussi.
Bon.
Je rappelle donc un petit peu pourquoi ils se battaient. Hein. Donc il y avait une proposition de, enfin une suppression de 10 postes sur Millau, Saint-Rome de Cernon, et donc les facteurs n'en voulaient pas. Donc la direction prétextant pour supprimer ces 10 postes la baisse du trafic lié à Internet, effectivement. Mais bon, moi je m'étais posé la question. Je me suis dit bon, que le facteur t'apporte 2 lettres, 3 lettres ou 1, il est quand même obligé de venir chez toi. Donc effectivement, peut-être que ça se discute. En plus, c'est basé sur des études prévisionnelles sur 10, 15 ans, donc c'est vraiment quand même assez aléatoire.
Puis c'est moins lourd pour le facteur aussi, donc il est plus en forme, donc il s'arrête moins, donc il y a moins d'arrêts de travail aussi quand il y a moins de... Bon bref, voilà, on peut faire aussi les raisonnements inverses, hein, je veux dire.
Je reprécise aussi que ce n'était pas des postes qui étaient véritablement supprimés, puisqu'on ne virait pas des gens, mais on ne
déplacé.
Remettait pas en place... de contrats à durée déterminée.
Ils appellent ça réorganiser, ouais, hein, je crois.
Une réorganisation. Et les départs en retraite n'étaient pas remplacés. Donc ils ont quand même réussi à obtenir, au bout de 12 jours de grève, à sauver. Ils ont réussi à obtenir que 7 postes soient sauvés. Ils ont été assez soutenus par les politiciens locaux, on va dire, plutôt de gauche. Je n'ai pas vu, à ma connaissance, à moins que je me trompe.
Les politiques, plutôt, locaux.
Les politiques, oui. C'est moins péjoratif. J'ai pas vu à ma connaissance d'autres bords venir les soutenir. Hein. Pourtant, c'est quand même le service public en milieu rural aussi, la poste. Hein. Voilà, il n'y a pas la peine de faire un dessin. Ils ont obtenu aussi que 5 jours de grève leur soient payés, au titre aussi de tout ce qu'ils vont devoir rattraper, parce qu'il faut savoir qu'avoir fait grève pendant 12 jours, on n'a toujours pas récupéré notre courrier quand même. Il y a du courrier qui s'est entassé, il se donne jusqu'au 12 décembre pour pouvoir tout rattraper.
Pour les factures, ne vous pressez pas.
Hein. voilà. Et aussi l'arrêt des poursuites pour entrave à la circulation du camion de courrier, puisque effectivement tous les matins il y avait une sorte de piquet de grève devant la poste. Alors c'était pas forcément explicitement les postiers qui faisaient le piquet de grève, il y avait aussi des citoyens solidaires des postiers, et donc il y a 7 postiers qui avaient été qui sont passés au tribunal à Rodez. Tu les as pas vus, Jean-Pierre ?
Alors non, personnellement je les ai pas vus, mais on en a entendu parler dans la presse et ils ont été effectivement soutenus. Il y avait pas très longtemps d'ailleurs, hein. Non je crois.
Mais oui, c'était pendant la grève. En fait, ils ont été astreints à payer 700 euros par jour à chaque fois que le camion ne pouvait pas
Oui, mais les timbres démarrer. Fiscaux, c'est cher. Hein.
Et ça a été les poursuites. Ils ont obtenu l'arrêt de ces poursuites-là aussi dans les négociations qui ont eu lieu.
Il y a un phénomène étrange qui apparaît lors maintenant quand on fait des manifs, c'est qu'on va porter plainte contre toi. Ça n'arrivait pas, ça avant, si mes souvenirs sont bons. On ne venait pas te dire, ah, mais on va porter plainte parce que vous avez fait grève, parce que vous avez empêché un camion de passer. Ou parce que... Est-ce qu'on a porté plainte contre les routiers quand l'essence n'arrivait pas dans les pompes à essence?
C'est, oui, ou les agriculteurs qui mettaient à sac.
Ou les agriculteurs
lieux...
qui remplissaient de fumier le bureau d'un certain ministre.
Le préfet ou le ministre. Non. Jusqu'à présent, ce n'était pas une pratique très répandue.
Et là, c'est très... ça commence à se répandre.
C'est ce qu'on appelle la criminalisation du social, des grèves, en l'occurrence. Mais on a déjà criminalisé la société à d'autres niveaux, donc c'est normal qu'on en arrive là, malheureusement, aussi.
J'avais eu la direction de la Poste sur la question, enfin, du moins le grand négociateur qui vient d'Albi, sur la question, et qui disait que ce n'était pas du tout une atteinte au droit de grève, mais en l'occurrence... une atteinte à la liberté de travailler des autres, puisqu'ils ne pouvaient pas accéder aux locaux de la Poste à Millau, et ils ne pouvaient même pas pouvoir se réunir pour négocier, puisque tout était bloqué. Voilà. Donc tout ça, on peut dire que c'était une lutte victorieuse, et il faut savoir aussi qu'il y avait un collectif de citoyens à Millau qui s'était organisé, ils ont été très soutenus. Il y a même eu, à l'issue de la grève, des bons qui ont été vendus pour les postiers, pour qu'ils puissent un peu se payer les jours de salaire perdus. Il y a eu une brocante, un dimanche, un concert de soutien, et il y a eu aussi un repas qui a été organisé au bénéfice des postiers, j'y suis allée, c'était à l'issue de la grève. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-François, que j'avais déjà vu dans le mouvement des postiers, qui a été temporairement postier, on va dire, puisqu'il était en CDD de 7 mois. Et puis deux jours après qu'il ait terminé son CDD, la grève a démarré, donc il est allé dans le mouvement. Il nous raconte un petit peu comment il a vécu ce mouvement. Comment ça a démarré, cette grève à la Poste?
C'est une grève qui démarre... quelque part un peu rapidement, sauf que ça fait longtemps que ça couvre, puisque depuis la transformation de la Poste en société anonyme, on y fait ce que l'on appelle des restructurations systématiques, sauf qu'on les divise, on les dirige dans l'ensemble du territoire. Donc toutes les années, il y a des centaines de restructurations sur les 17 000 points postes de la France. Et globalement, tous les 18 mois, il y arrive une nouvelle restructuration, puisqu'il faut arriver au but que s'est fixé la Poste du 8% de profit pour 2015. Je soupçonne aussi la Poste de se dépêcher de terminer ses restructurations, puisque le plan 2008-2012 État-service public va être rediscuté en 2012. On pousse la restructuration de manière un peu brutale et rapide, mais on l'a fait disséminer dans le territoire. Cette semaine, c'est peut-être entre Lille, dans le Nord, qu'il y aura les mêmes restructurations qui ont été tentées sur Millau de Casseville en ce moment. Il y a eu Sainte-Afrique au début de l'été, on a aussi eu belle lutte. Mais les grèves sont un peu, comment dirais-je, pas stériles, mais elles sont un peu sont tuées dans l'œuf, parce qu'effectivement, avec cette grande division, comment les Lillois peuvent se sentir solidaires des gens de Lourdes ou bien de Nancy? Donc les gens n'ayant que très peu de contacts, finalement, et sachant que, dans l'esprit, le facteur va défendre son poste. La Poste emploie 200 000 et quelques employés encore aujourd'hui, et ces gens-là, ce sont comme tous les employés, les travailleurs, que ce soit à l'usine ou autre, voient assez régulièrement le bout de leur mois, ou ne voient pas bien la fin de leur mois, mais ne voient pas que les mois des autres sont interdépendants aux leurs. Et ce que j'ai rencontré moi personnellement dans ma petite expérience de Poste, j'ai rencontré un panel de la population dite normale. Quand je dis normal, c'est-à-dire monsieur tout le monde. J'ai vu un panel qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, donc c'est monsieur tout le monde. Monsieur et madame d'ailleurs, puisqu'il y a 47% de femmes à la Poste quand même.
Pourtant, il y a des syndicats qui sont censés aussi fédérer tout le monde.
Oui, alors les syndicats, j'avais déjà dans ma tête fait une petite réflexion. Je travaillais là depuis 2 mois, puisque j'y ai fait 7 mois en tout. Je pense que les syndicats sont quelque part en collusion, c'est un grand mot, mais sont assez stéréotypés par rapport à la lutte. Parce qu'on n'est pas là pour remettre en question le système de la privatisation, on est là pour conserver des postes. Alors que la réalité, on le sait, que la privatisation va jeter les gens à la rue. Pour la Poste en France, c'est 12 000 personnes environ par année sur les 5-6 dernières années qui disparaissent. Ce qui est absolument hallucinant. Donc quand je voyais la semaine dernière, j'entendais dans les grévistes, ils disaient « Oui, 1500 postes ici, il y a PSA, 2800 postes, 3000 postes. » On dit « Il n'y a que 10 à Millau. » Alors que oui, il y a 10 postes à Millau qui étaient en péril, mais la réalité, c'est qu'il y en a 12 000 de supprimés en France. Et ça, c'est vrai depuis, on peut dire, 5 à 6 ans. Là, je dirais, la grande richesse de cette grève de Millau, c'est que ça a permis aux facteurs qui étaient a priori là pour lutter pour leur place personnelle, se sont rendus compte qu'il y avait tout autour des gens qui luttent dans d'autres luttes, qui ont d'autres patrons, qui ont d'autres motifs de s'indigner, de manifester, et qui sont venus de manière très solidaire, et d'ailleurs on les voit encore aujourd'hui, au-delà de la grève, encore dans un repas solidaire. D'après moi, la grande réussite de cette lutte, ça n'est pas tellement les postes qui ont été gagnés. Personnellement, j'étais parti pour zéro, mais là, les postiers ont le droit tout de même de donner leur parole, et puis ils l'ont exprimé comme ils l'ont senti. Il y a une belle victoire, d'après moi, surtout morale, parce que les facteurs ne seront pas sortis de cette grève indemnes intellectuellement et moralement. Je pense qu'il y en a énormément qui ont découvert qu'il y avait d'autres luttes, qui n'étaient pas seulement leur propre nombril.
Il y a eu quand même une belle intersyndicale, une unité syndicale dans ce conflit à Millau.
L'unité syndicale, elle s'est passée parce qu'il y avait surtout un fort soutien de l'ensemble et que l'ensemble des facteurs ont donné mandat, sur la base du préavis de grève, de lutter pour le zéro. Et aucun des syndicats ne pouvait revenir en arrière sur ce mandat. Donc après, il y a eu des discussions, il y a eu certains syndicats qui ont poussé quelque part à la clôture des discussions, d'autres étaient plus, comment dirais-je, plus fermes, mais je dirais que voilà, il y a certains syndicalistes aussi qui ont une grande habitude de ce genre de négociations et qui, dans leur tête, avant même d'arriver, connaissent pratiquement le résultat, puisque les mêmes discutent avec les mêmes liquidateurs. Il aurait fallu, à mes yeux, envoyer des innocents, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni syndiqués ni syndicalistes, mais représentants du personnel, et qui auraient certainement perturbé la négociation en étant neufs. On passe une heure ensemble à discuter, je vais connaître des tas de choses de la personne qui est en face de moi. Mais quand c'est la 20e négociation qu'on pratique ensemble, l'un et l'autre connaît les concessions de l'autre. Et ça, c'est aussi le risque du syndicalisme. Et après, il y a aussi le fait que certains syndicats sont plus tentés par un certain parti ou par un autre, ou par des tendances politiques, et qui fait que le syndicaliste ne défend pas nécessairement l'action locale, mais l'idée collective nationale d'un syndicat. Comme je disais auparavant, que les syndicalistes ne sont pas là pour remettre en question la privatisation, puisque j'ai posé la question à plusieurs syndicalistes qui étaient venus, représentants départementaux, régionaux, à la poste le matin pour des contacts. Et chaque fois que j'ai posé la question, « Et que fait votre syndicat par rapport à la privatisation ?» J'ai eu la réponse de l'un. Je l'attends toujours une réponse un peu intéressante, parce qu'il m'expliquait, « Oui, il faut soutenir à Villefranche, il faut soutenir à Montauban, il faut soutenir, j'étais là, je suis fatigué. » Mais je n'ai pas eu la réponse par rapport à la privatisation.
Tu es globalement satisfait quand même de cette lutte et du résultat que vous avez pu obtenir ?
Ben personnellement, je ne suis pas content, je suis parfaitement heureux parce que j'étais intégré par l'ensemble des facteurs qui m'ont reçu, alors qu'un CDD à la poste, c'est un peu comme un jaune à la grève, c'est-à-dire quelqu'un qui mange le travail de quelqu'un qui pourrait l'avoir en temps normal. Mais les facteurs ont eu à mon égard un bel accueil, c'était très émouvant, et d'autre part, j'étais parfaitement intégré à la lutte. Bien sûr, n'ayant pas mot aux assemblées générales, pas droit de parler puisque je n'étais plus facteur, j'ai terminé l'avant-veille du début de la grève, ce qui ne m'a pas empêché de participer, ne serait-ce qu'en remerciement à la belle solidarité du groupe, de participer à cette grève, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres gens aussi, qui sont les gens d'un collectif, qui étaient là de tout horizon aussi, et qui ont fait de cette lutte une magnifique fête.
Du coup, tu risques de plus avoir de contrat à la poste ?
Ah mais je n'en veux pas. C'était l'unique patron de ma vie et je n'étais pas mécontent de cette expérience parce que j'ai appris beaucoup.
Un projet d'implantation de...
Oui, alors voilà, Catherine.
Jean-François était donc postier en CDD hein, de 7 mois et il a participé à cette grève de 12 jours à Millau. J'ai trouvé sa vision assez intéressante.
Non syndiqué.
Non syndiqué.
Oui, non, mais c'est important parce que ce qu'on entend, évidemment, on ne pourrait pas l'entendre dans la bouche d'un syndicaliste hein, ou d'un syndiqué.
Après, c'est vrai que j'ai eu affaire beaucoup aux postiers qui étaient syndiqués, qui étaient aussi très intéressants. J'ai aimé dans sa vision, moi, le côté victoire morale. Parce que c'est vrai, j'ai l'impression, même si ils ont gagné, qu'on est quand même sur des luttes défensives. On n'est plus sur des luttes de conquête, enfin, ça fait un peu longtemps que c'est le cas. Mais ce qui est déjà beau, c'est ce côté vécu intéressant, et ça on le ressentait. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au piquet de grève, etc. Et on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose. Les postiers, moi c'est pas les miens, mais quand je vais à Millau, j'en croise plusieurs des facteurs. On se dit, ah, ils sont contents, enfin, il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, ça c'est déjà pas mal.
Y compris avec la population ?
Y compris avec la population. Après... Bon, moi j'ai entendu aussi des réactions par rapport à ce mouvement de grève où, effectivement, ben, le fait de ne pas avoir de courrier pendant 12 jours, personnellement...
Et oui, et l'activité économique, comment on fait alors ? Hein ?
Il y a l'activité économique. Il y a des gens qui m'ont posé une question que je trouve assez pertinente. Est-ce que le service de la poste doit forcément être un service public ?
Oui, alors là, on peut, à ce stade-là, on peut tout remettre en cause. Hein,
mais on voit bien, bah, on a l'école, hôpitaux, ok. Après, la poste, est-ce que la distribution du courrier doit être forcément un service public ? Est-ce qu'on doit forcément avoir son courrier tous les jours ? C'est une question qui se pose, hein, moi je ne suis pas contre les questions. Hein.
Mmh. Ben, allez, tu en es un bon exemple, tu as vu où tu habites.
Ah oui, non mais là, tout
à fait. Tu vois, si le facteur ne vient pas te poser le courrier, qui te dit non mais finalement le courrier je vous le mets à l'intersection des deux chemins là, mais à 500 mètres de chez vous, ou sinon si vous voulez votre courrier vous venez le chercher ailleurs, et puis bon, le tarif du timbre est le même pour tout le monde, quel que tu sois à 5 km du lieu de la poste, que à 500, pas à 500 parce que là on change de secteur, mais je veux dire, si pour moi c'est un service public sans hésitation. Je suis désolé, mais franchement, il y a plein de choses qui sont des services publics, quoi.
La continuité territoriale est très importante, surtout dans les petites communes éloignées de tout. Et à mon avis, un privé ne le fera pas. D'ailleurs, on le sait, il y en a qui ont déjà anticipé en essayant de se placer sur ce marché-là, sur ce créneau-là, des privés qui distribueront le courrier parce qu'ils vont distribuer le courrier. Moi, ce que j'ai trouvé... dommage, enfin presque un petit peu pathétique finalement, c'est que certes il y a une victoire morale, mais comme tu disais tout à l'heure, pas sur le fond. C'est-à-dire que les syndicats ont d'ores et déjà abdiqué, et ce depuis très longtemps, depuis la directive sur les services, ont entériné, on pourrait presque dire, ces textes sur les services publics, et devanceraient presque d'ailleurs de temps en temps, pour faire un peu de zèle, hein, histoire de donner le change au gouvernement, devanceraient presque certaines des directives qui vont être mises en place. Et on le voit bien ici avec la Poste, et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est non syndiqué et qu'il parle comme ça de l'extérieur, de ce qu'il voit, de ses camarades autour de lui en lutte, qui certes lutte, mais dont les appareils, parce qu'il faut bien parler d'appareils malheureusement bureaucratiques, doivent continuer à fonctionner, à manger, et sont prêts donc à tous les compromis. Et malheureusement, qui en fera les frais ? Eh bien, ce sont ceux qui sont à la base, et lui en premier. Parce que Catherine, tu le disais tout à l'heure, c'est quand même un CDD. À la Poste, il y a moult et moult CDD. Alors, je ne sais plus, j'ai entendu une information ce matin, régulièrement, des salariés de la Poste en CDD vont au prud'homme. Et ils gagnent systématiquement. Alors, pourquoi il n'y a pas une action d'ampleur ? Bon, c'est vrai que les class actions n'existent pas en France. On ne peut pas faire donc un package de l'ensemble de ces différents de ces contrats, en fait. Mais si les syndicats décidaient partout en France de mettre la Poste au prud'homme, ça serait bien difficile pour elle de tenir le choc, là, à ce niveau-là, parce que des CDD, ça continue aussi aujourd'hui. Voilà, c'est juste... Mais c'est très intéressant.
Pour ne pas juste qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les questions sans tabou, mais si je pose cette question-là, c'est peut-être parce qu'il faut peut-être pas voir la Poste comme un service simple de distribution de courrier. Moi, effectivement, peut-être vous, c'est pareil, ça m'est complètement égal d'avoir mon courrier tous les jours. De l'avoir tous les jours, je peux l'avoir tous les deux jours, c'est pas très grave, hein. Je suis pas une entreprise, ou je sais pas, j'ai pas besoin, je l'ai pas pendant 10 jours, bon, voilà, je vais recevoir. Mais je pense qu'il faudrait, pour ça, qu'on arrête de dire que la Poste, c'est juste un truc, c'est ce qui se fait, c'est ce qui permet aujourd'hui la privatisation, que c'est juste un service de distribution de courrier. Bon, avant tout, la Poste, c'est mon facteur, et d'ailleurs, Jean-François, il l'a pas dit là, mais on en a discuté, disait ça, que les gens parlent de mon facteur. C'est mon facteur, le monsieur sympa, qui s'arrête, qui discute, qui... Et ça, ça se paye pas, ça a pas de prix. Enfin, ça se paye, si, mais je veux dire, ça a pas de prix, ça se quantifie pas. Et c'est de le voir comme ça, comme uniquement, purement un service...
Oui, comme un autre, un service qui serait lambda. C'est,
voilà,
ce serait dommage.
Service lambda, c'est ça qui fait qu'on arrive à détruire le service public.
Mais si ce n'était pas un service public, ben un service où, si tu veux, derrière, il n'y a pas un souci de rentabilité, ça ne peut pas marcher. Je veux dire, même supposons que la poste soit privatisée, qui va aller faire du lien social dans les milieux? Alors, moi, j'accepte qu'on me livre le courrier que tous les trois jours, ce n'est pas un problème. C'est une façon aussi d'améliorer les services de la poste parce que économiquement, il y a des soucis, certains soucis, pas forcément ceux que vous nous faites croire, mais d'autres. Ok, qu'on réaménage le travail de ces gens-là, qui est moins de facteurs parce que je sais pas, on n'a pas forcément les moyens que l'on avait avant, même si c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais que ça reste un service public et je ne vois pas autrement comment ces personnes qui dans des milieux ruraux comme les nôtres servaient pas mal de liens sociaux parce que c'est les seules personnes dans certaines fermes du Larzac, enfin. Voilà, de l'Arzac ou de l'Aveyron, ne voit passer que le facteur une fois tous les trois jours. Quoi. C'est tout ce qu'ils voient passer. Quoi.
Les personnes âgées sont un bel exemple. Ils attendent vraiment, même dans leur petit hameau reculé, surtout dans leur petit hameau reculé, la présence du facteur l'hiver notamment.
Bon, ils leur portaient la pension, mais maintenant ils ne la portent plus, ça se fait directement.
Oui, mais ils boivent
le
café.
Moi, je suis très contente de voir arriver mon facteur. Hein. Il est très sympa. Et il y a quelque chose, une réflexion que je me suis faite, et c'est pas la poste, mais bon, moi effectivement j'habite dans un endroit assez reculé et il y a quelqu'un qui vient vendre du pain, vendre une baguette à mes voisins une fois par semaine. Il est obligé de faire un détour. C'est quasiment un service public, ça, pour moi. Je pense pas qu'il gagne sa vie en faisant ce détour-là pour vendre un gros pain à mon voisin. Il y a tout plein de petites choses comme ça qui existaient.
Une mutualisation des services publics. On pourrait très bien dire. Il y a ça à faire à tel endroit, qui s'en charge? Alors, on va apporter le courrier, le pain et le litron à tel endroit, et c'est un tel qui s'en charge. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est une autre réflexion de la redistribution des rôles sur le territoire.
Juste pour terminer sur ce sujet, parce que malheureusement le temps nous est compté et que dans cette émission nous reviendrons sur les sujets qui nous intéressent, et Dieu sait si les sujets de lutte dans tous les domaines et pas uniquement ceux des services publics seront très certainement encore en actualité en 2012, à l'actualité en 2012. En ce qui concerne ce conflit, à De Casseville, il y a eu sensiblement la même mobilisation, je le signale, puisqu'ici nous en avons parlé sur cette antenne, même si on n'a pas été comme toi sur le terrain pour interviewer tous ceux qui s'étaient mobilisés. Mais il y a eu le même type de mobilisation. Et c'est intéressant dans l'Aveyron de voir que c'est un département très sectorisé en ce qui concerne les luttes. Des luttes qui, par ailleurs, sur le Nord-Aveyron et spécifiquement sur Odès, sont quand même beaucoup plus adoucies, beaucoup plus amoindri, avec nettement moins de points d'accroche, alors qu'on voit bien que le bassin se souvient de son histoire, que le sud du département se souvient également de son histoire. Qu'on a donc, ça c'est intéressant au niveau sociologique, on a un Aveyron à plusieurs vitesses. Il faut le rappeler, il faut en être conscient quand on parle de notre département et des services publics qui ne sont pas perçus de la même façon.
Il y a l'un des facteurs d'ailleurs qui m'a dit au début de la grève... Ils testent le truc à Millau et De Casseville parce qu'ils savent que ça bouge bien. Et là, si ça passe chez nous, ils le font partout ailleurs dans l'Aveyron.
C'est une réponse, effectivement.
Ils étaient passés par Saint-Afrique avant.
Vous écoutez Ménage à Troyes, Radio Saint-Af, Radio Larzac, RTR. Dans ce premier nouveau magazine, nous allons évoquer dans quelques instants un second sujet. Ce sera avec Radio Saint-Af. Mais je vous propose de faire, comme on disait à l'époque dans les années 80, une petite pause musicale avec un gros dauphin. Car il s'appelle Lou Dalphine. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas un expert en occitan, bien que j'aime bien la langue d'oc. C'est notre ami René Durand qui nous a apporté ce morceau. Écoutons. Thank you. Manu, pour Radio Saint-Taf, un sujet dans le vent ?
Oh oui, samedi 26 novembre a eu lieu à Saint-Taf une petite conférence, on va dire, qui a été organisée par le collectif Énergie Alternative du Sud-Aveyron à Midi-Pyrénées. C'est un collectif qui regroupe 17 assos de l'Aveyron, de l'Hérault, du Tarn. Et il parlait des projets d'implantation d'éoliennes industrielles sur les territoires. Et c'est vrai que sur le territoire du côté de Saint-Taf, sur les communes des Costes-Gauzon et de Saint-Rome-de-Tarn, il y a un projet de 5 éoliennes par commune, donc 10 éoliennes. 10 éoliennes, mais ce sont des éoliennes méga industrielles, puisqu'il faut 145 mètres de haut. Voilà. 145 mètres de haut, ça fait un immeuble de 50 étages. Hein, voilà le gros projet qui est prévu là-bas.
Ça fait quoi par rapport à celles qui sont déjà sur le Lévézou ? C'est plus haut ?
Ah, c'est trois fois.
Trois fois celle-ci ?
Trois fois ça à peu près. Puisque là, elles font dans les 40, 30, 40 mètres.
Je me disais aussi, il n'y en a que 10, mais effectivement, elles en valent 100.
Ah oui, elles en valent un gros paquet. Puis là, c'est un gros. C'est lié. Enfin, c'est lié. Personne ne voit. C'est lié. L'idéal, ça serait d'écouter le son que je vous ai mené. C'est deux politiques qui parlent. C'est Madame le maire des Costes-Gauzon, Nicole Lossel, et Monsieur Marcel Calmels, qui est maire de Saint-Rome-de-Tarn, au micro d'Elsa Decour.
Un projet d'implantation de 10 éoliennes industrielles est prévu sur les communes de Saint-Rome-du-Tarn et des Costes-Gauzon, 5 éoliennes donc par commune. La mise en fonction est prévue pour 2014. D'ici là, une enquête publique est en cours. Donc nous sommes avec Marcel Calmels, maire de Saint-Rome-du-Tarn, et Nicole Lossel, maire des Costes-Gauzon. Mardi 29 novembre, vous avez mené une réunion à la mairie des Costes-Gauzon pour un appel au calme et à la responsabilité. De quoi s'agit-il ?
Tout simplement, nous avons invité les personnes à venir à l'enquête publique pour qu'ils viennent formuler leur avis sur ce projet, bien que depuis 2004, ce projet est dans les tuyaux et nous avons régulièrement convoqué et pris la tâche du comité de pilotage qui est composé à la fois des agriculteurs, des chasseurs, des randonnées, des personnes qui sont, intéressées par le projet, c'est-à-dire les propriétaires, les riverains, ainsi que le parc naturel régional des Grands Costes. Nous faisons des réunions où la population est venue y consulter le projet. Donc il y a eu concertation permanente entre les personnes et les porteurs de projet. Il faut savoir que le porteur de projet, ce n'est pas la municipalité. Les municipalités ont reçu le projet de EDP renouvelable qui est représenté par Madame Méline Massebio à Millau. Nous nous sommes prononcés avec un avis favorable les deux communes sur le projet d'implantation de 5 éoliennes. Et afin de maîtriser justement cette situation, nous avons souhaité rédiger et mettre en place ce que nous appelons une zone de développement éolien qui peut correspondre à un document d'urbanisme qui permet à nous, municipalités, de maîtriser, de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment dans ce domaine.
Pourquoi un appel au calme alors ?
Tout simplement parce qu'il y a dans une commune riveraine des Costes et de Saint-Rome un amalgame entre le poste de transformateur qui est en projet à l'heure actuelle et les éoliennes.
En dehors de ce transformateur, il y a eu une réunion le 26 novembre par le collectif Énergie Alternative du Sud-Aveyron et Midi-Pyrénées qui regroupe pas mal de gens qui sont par contre opposés au projet d'implantation des éoliennes.
Oui, mais madame, nous sommes en démocratie et chacun a le droit d'exprimer sa façon de voir les choses. Donc nous respectons leur position. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est que les gens s'expriment dans le calme et la sérénité. C'est tout, point.
Donc est-ce que vous avez rencontré l'opposition ? C'est quoi leurs arguments ?
Nous défendons notre projet éolien, point à la ligne. Voilà. Comme ils sont contre les transformateurs, ce sont les mêmes personnes qui sont contre les éoliennes. Point à la ligne, et c'est tout. Voilà.
Mais ce n'est pas du tout les mêmes pourtant. Certains, ils sont opposés tout simplement aux éoliennes sans parler du transformateur.
Eh bien, vous êtes mieux renseigné que moi.
Quelles sont vos motivations par rapport à ce projet ?
Nos motivations, eh bien, c'est que nous sommes confiants dans ce projet, car notre démarche donc d'un parc éolien est avant tout le développement d'une énergie renouvelable qu'est le vent, en utilisant une énergie locale, gratuite, écologique, économique, propre et une énergie d'avenir, mais complémentaire des autres productions telles que le soleil, le bois, etc.
Voilà.
Et peut-être l'hydraulique. Hein. Voilà. Donc notre dossier qui a été porté, donc le permis qui a été porté par EDP, a été recevable par les organismes de contrôle tels que la DREAL, hein, et qui sont et qui est en conformité au cahier des charges du Grenelle 2. Donc à partir de là, l'enquête, aujourd'hui nous sommes à l'enquête publique et nous invitons donc à la consultation dans le calme, en conscience et responsabilité. Si les Côtes d'Argent et Saint-Rome de Tarbes ne pouvaient pas recevoir des éoliennes, le permis de construire nous aurait été déjà barré auparavant, il ne serait pas à l'enquête publique. Mais nous correspondons, si vous voulez, aux critères de pouvoir mettre des éoliennes. Or, en tant qu'élus, c'est de notre devoir de promouvoir ces nouvelles énergies respectueuses de l'environnement pour les générations futures.
Une éolienne, c'est avant tout un mât en acier, des pales en fibre de verre ou de carbone, et le rotor, c'est éminemment du cuivre, donc des matériaux nobles et recyclables. Donc au bout de 20 ou 25 ans de vie, l'éolienne peut être facilement recyclée sans aucune difficulté. Reste simplement l'assise en béton, qui n'est pas négligeable, c'est 10 sur 10, mais dès lors, la loi Grenelle 2 fait l'obligation aux développeurs de mettre sur un compte bloqué à la Caisse nationale des dépôts et consignations les sommes nécessaires pour le démantèlement des éoliennes. D'autre part, nous ne nous cachons pas aussi derrière le petit doigt, il y a une incidence financière. Nous, ce qui nous a fait aller dans ce projet, c'est que les 5 éoliennes des Côtes d'Argent et les 5 éoliennes de Saint-Romain-de-Tarbes se trouvent les unes et les autres sur des propriétaires cultivateurs différents. Donc 10 mâts, 10 propriétaires exploitants. C'est très important pour eux. D'autre part, il est exact qu'il y aura des retombées financières, c'est-à-dire la fiscalité. Vous savez très bien que la taxe professionnelle a été remplacée par l'IFER. L'IFER, c'est l'imposition forfaitaire des énergies en réseau. Donc il y aura une retombée financière pour la commune ou la communauté de communes et pour le département, bien sûr. Voilà.
Donc qui finance ces implantations ?
C'est EDP Renouvelable, c'est une société. Il y a aussi également un élément qui n'est pas négligeable, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes de plus en plus énergivores sur le plan électricité et nous allons progresser malgré notre souci d'économie, car va arriver le transport électrique. Il faudra bien les brancher. L'électricité fournie par les parcs éoliens de Côtes d'Argent et de Saint-Rome pourra alimenter 18 000 personnes, éclairage et chauffage compris.
18 000 personnes dans le sud Aveyron ou ailleurs ?
Ah ben oui, dans le sud Aveyron. Ah ben, disons que, non, soyons honnêtes, l'électricité sera remise dans le réseau. L'énergie produite est vendue à RDF. Il y a mettre où ils veulent. Hein.
Qu'est-ce que ça va rapporter en échange sur le plan de vue financier ?
Alors pour nous, les communes, d'après les projections, hein, pour les deux communes, on arriverait à 50 000 euros par an. Et 80 000 euros pour le département et 12 000 pour la région.
Est-ce que l'accord de la population est indispensable pour que ce projet voie le jour ?
Ah ben disons que c'est souhaitable. Nous sommes là pour le bien public et l'intérêt général.
Souhaitable, mais donc pas indispensable.
Ça, il faut bien savoir que le permis de construire sera étudié par les organes et l'administration qui dépendent de Madame le Préfet. Et c'est elle et elle seule qui a la signature du permis de construire.
Alors moi, déjà, je vais vous répondre de... Voilà, donc nous voilà, venons d'entendre les arguments.
Madame la préfète, vous avez la balle dans votre camp, que va-t-elle choisir ? Bref, ce matin, c'était pas vu, on a eu au téléphone...
On précise juste, Manu, que nous sommes le 1er décembre voilà, pour l'enregistrement.
Nous sommes le 1er décembre voilà. Pour l'enregistrement. Nous sommes le 1er décembre et donc ce matin nous avons eu Carole Joly qui est la présidente de ce fameux plateau survolté, cette association, et qui éclaire un petit peu par rapport à ce que vous avez pu entendre sur le formatage des deux maires par rapport à ce projet-là. Ce qu'il ne semble pas s'apercevoir, c'est que des éoliennes de cette taille et une production de cette envergure va demander à ce qu'on change tous les tuyaux pour amener cette énergie ailleurs. Parce qu'ils disent on va la réinjecter dans le réseau. Oui, mais tel que le réseau y est fait actuellement, on ne pourra pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux projet d'implantation de transformateurs, de méga-transformateurs.
Donc ceux qui disent que ce n'est pas lié, que les deux n'ont aucun rapport, ont tort.
Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire un projet de cette envergure sans derrière mettre les tuyaux qui vont avec. Et puis, on n'a pas besoin sur le secteur, les gens du secteur te disent, on n'a pas besoin de ce type d'infrastructure pour fournir de l'électricité aux locaux. on fait des projets moindres et tout le monde en aura aussi de l'électricité.
Donc l'argument comme quoi cette électricité serait redistribuée uniquement aux personnes qui habitent le sud d'Aveyron,
c'est n'importe quoi.
Large.
C'est n'importe
non,
quoi.
Non, c'est pas possible. Cette électricité va être vendue à l'Espagne, à l'Espagne ou ailleurs, on s'en fout. Elle est réinjectée dans le réseau et elle va être redistribuée ailleurs. Quoi.
Redistribuée même... avec 20% de pertes en général, comme il y a
bon, donc c'est
la moyenne
un projet, on va dire, un peu trop gigantesque.
Ah oui,
à l'échelle de ces petites communes, qui d'ailleurs se laissent souvent dépasser par les arguments, pour ne pas dire les arguties, de ces sociétés anonymes et de leurs sbires, parce qu'il faut bien le dire qu'avant, il y a tout un travail en amont qui est fait par des sociétés d'études, etc.
Le truc, quand il dit dans l'interview ce truc-là, le parc naturel régional voilà. Des Grandes Côtes, ça a quand même précisé que pour que ce projet soit viable, il fallait quand même que l'ensemble de la population en soit informée. Alors là, en ce moment, au niveau information de la population, donc ils ont fait des réunions d'information, mais sur lesquelles sont invités des représentants de chaque... donc là, c'est les chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires, enfin, je ne sais pas, les associations de randonnée, machin. On s'aperçoit, quand on voit qui sont à la tête de ces structures-là, ce sont des proches de ces fameux politiques. Donc, au niveau information, il n'y en a pratiquement pas. Tout le monde a l'air d'être au courant. Mais, enfin, tout le monde a l'air. On dit que tout le monde est au courant, sauf que ce n'est pas le cas. Et il y a un truc assez étonnant que disait Carole Joly par rapport à l'enquête publique, c'est qu'il y a le commissaire enquêteur. Donc, ce fameux commissaire enquêteur a commencé. Et dans la pièce où elle se trouve, en plus du commissaire enquêteur qui doit venir récupérer les doléances des gens qui sont intéressés ou pas intéressés, est présent aussi Madame Huntel qui est EDP Renewable, la fameuse entreprise qui doit venir installer ses éoliennes, vient là pour faire sa pub.
Mmh. Oui, c'est comme si dans un bureau de vote, il y avait quelqu'un qui vous indiquait quel papier il fallait mettre dans l'enveloppe.
Ou le bleu,
même si on vous laissait le choix de prendre tous les papiers, mais à la fin, il faut quand même en garder un seul.
Voilà, je trouve un peu bizarre. Oui, Catherine.
C'est complètement pénible ce genre de sujet, je trouve, l'éolien, le gros éolien, parce qu'effectivement, moi je me considère écologiste, hein, et du coup on nous dit mais pourquoi vous allez être contre les éoliennes, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous vend ce genre de truc. Moi effectivement je suis complètement contre ce genre de truc. C'est-à-dire d'implanter des éoliennes sur des territoires comme ça sans aucune remise en question de notre consommation énergétique. Je veux bien qu'il y ait une éolienne à côté de chez moi, à condition que ça n'aille pas éclairer la vitrine de tel magasin au centre-ville à 3h du matin. Moi, ça ne m'intéresse pas de produire de l'électricité de façon complètement débile comme ça. Et puis aussi, l'autre chose qui est complètement scandaleuse dans ces histoires, c'est que ça revient aux propriétaires terriens. C'est pas que je suis jalouse que mon voisin éventuellement pourrait toucher des sous sur son terrain, c'est que tout ça parce que ça lui appartient, je pourrais avoir moi un énorme truc à côté de chez moi qui va lui rapporter, je vais pas être vulgaire, mais qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et il y a que lui en fait, c'est une entreprise extérieure qui arrive comme ça, qui propose, non ça doit pas partir comme ça, enfin, j'aimerais bien savoir parce que pour le coup j'avais assisté à... une conférence, je ne sais pas comment ils appellent ça, du parc naturel régional des Grands Causses en septembre sur l'éolien participatif qui était à l'initiative de François Marre, qui est un élu qui est chargé de la commission énergie au parc et qui est assez engagé sur la question. Il me semble qu'il a Europe Écologie Vert ou peut-être proche. Je n'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il a Europe Écologie Vert. Enfin bref. Et il y avait des invités qui étaient assez intéressants, donc des gens qui sont en Ille-et-Vilaine, donc c'est une association, c'est parti d'habitants, ils ont monté leurs choses eux-mêmes, leur structure eux-mêmes, pour gérer eux-mêmes leur implantation d'éoliennes sur leur territoire. Alors je ne connais pas le projet par cœur, hein, il y a peut-être des défauts, il y a peut-être des opposants à leur projet aussi sur place, hein, mais bon, c'est déjà une autre démarche. Pareil, il y avait un projet, c'était dans la Somme, carrément... La commune a ça en régie, c'est-à-dire que c'est elle-même qui gère complètement les éoliennes. Et puis du coup aussi, dans ces expériences-là, c'était le cas surtout de l'Ille-et-Vilaine, comme les habitants sont à l'initiative de l'association, enfin des habitants sont à l'initiative de l'association, dès le départ, ils ont eux-mêmes étudié le nombre d'éoliennes qui pouvaient s'implanter. Et dès le départ, ils en ont supprimé quelques-unes, parce qu'ils trouvaient quand même que ça faisait beaucoup, etc. Et c'est beaucoup mieux accepté en plus, enfin, c'est choisi et l'argent, les bénéfices qu'ils font avec, ils s'en servent pour faire des trucs auprès des scolaires, par exemple, sur les économies d'énergie, etc. etc. C'est quand même une autre démarche. Que là, ils arrivent comme des bourrins. Là, c'est une boîte qui veut se faire du fric, en fait, sur le dos de l'éolien, parce que, hop, c'est un filon.
C'est pas ce qu'on appellerait le green, le greenwashing.
Hein, je sais pas ce qu'ils vont washer, mais...
Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça y ressemble un tout petit peu. Bon, alors je vais me faire l'avocat du diable, si vous le permettez, dans cette émission. Nous sommes dans des pauvres communes, d'Eraspe, je crois. Enfin, on n'est pas loin d'Eraspe, là. Hein. On est en Lévézou. Il n'y a plus de taxes, donc, de taxes perçues sur les entreprises, par les artisans, etc. Il y a une perte de ce côté-là dans les caisses de ces toutes petites communes qui doivent quand même... continuer à supporter des dépenses assez importantes. On pense aux routes notamment, ne serait-ce que pour que les gens puissent se déplacer, éventuellement peut-être installer un multiple rural. C'est ce qu'explique en fait, gros, le dernier maire qu'on a entendu. 140 000 euros et 80 000 euros, c'est pas rien dans un budget comme les petits budgets de ces communes, puisqu'on parle d'habitants très faibles, hein, 300, 400, 500 habitants, même pas.
Ben c'est ça qui les fait
briller
les yeux. C'est parce qu'il y a des chiffres derrière.
Oui, mais alors, je veux dire, à ce moment-là, on est très tenté, hein, y compris pour se faire réélire.
Oui, mais bon, c'est pas là que la réflexion doit être menée, comme disait Catherine. C'est plutôt la vitrine à 3h du matin. C'est ça qui est le plus important, je pense. C'est de voir déjà où est-ce qu'on peut limiter cette consommation anarchique d'énergie, où est-ce qu'on peut la supprimer. Parce que franchement, il y a certes... ne serait-ce qu'allumer une ampoule sur deux dans les villes la nuit. Bon, c'est vrai, il y en a qui vont te dire, oui, mais les ampoules au sodium, ça consomme rien ou presque rien. Ou, enfin, bref. Mais je m'en fous que ça consomme plus ou pas plus. Ce qui m'importe, c'est qu'on fasse l'effort d'en éteindre une sur deux. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que déjà, on est conscient de quelque chose et non pas de subventionner des villages entiers pour faire les illuminations de Noël. Là, oui, en ce moment, ça va donner... bon, c'est OK, on va tout dire, oui, mais ce sont des LED, ça consomme rien. Ouais, d'accord, bref. Et mais les magasins qui restent allumés jusqu'à tard le soir, à quoi ça sert? Il n'y a personne dans la nuit à 3h du matin.
Vous savez qu'il y a des groupes qui se sont constitués pour les éteindre. Hein.
Ben voilà, qui éteignent les néons, bref. Oui, Catherine.
Il faut une morale aussi. Jean-Pierre, tu parles de l'argent. Oui, effectivement, ils promettent de l'argent, des grosses sommes. C'est parce qu'on promet de l'argent que je vais faire quelque chose qu'on me demande.
Non, mais oui, puisque
il y a un moment donné, il y a une morale à avoir, et réfléchir. Je parlais tout à l'heure de l'histoire d'avoir cette gestion d'électricité en régie. Il y a sûrement plein de modèles différents, plein de choses à réfléchir. Mais ça aussi, ça peut éventuellement rapporter de l'argent. Et puis, il y a aussi le fait...
Fini.
Cette histoire de taxes professionnelles, on peut aussi, quand on est maire, c'est peut-être facile à dire aussi, hein, je ne suis pas maire, mais s'insurger contre ça, contre le fait qu'il n'y ait plus cette taxe professionnelle. Je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je trouve que c'était normal qu'il y ait éventuellement une taxe professionnelle pour les entreprises qui sont sur place.
Ça a été bien bricolé pour qu'on puisse supprimer un tas de levées moyennes de faire quelque chose. Hein. Mais comme elle parlait tout à l'heure, cette commune, je crois que tu es toi qui en parlais en Ille-et-Vilaine, c'est ça? Mais il y a une commune comme ça qui fait donc à la fois de l'éolien, de la méthanisation avec de la cogénération pour faire à la fois chauffer des habitations et avoir de l'électricité. Et une réflexion locale qui permet à tous les gens de s'impliquer dans la vie de ton territoire. Ça, c'est vachement plus intéressant que d'imposer aux gens des trucs dont ils ne savent même pas ce que c'est.
Désolé les amis, je vous impose tout de même quelque chose. C'est le générique de fin de cette émission. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Tous les bons débats. De toute façon, nous ne sommes pas là, nous, pour conclure à la place des élus ou des citoyens qui doivent se prendre en main, chacun. Je crois que s'il y a éventuellement peut-être une petite leçon à tirer de ces premiers reportages que nous avons tenté de décortiquer, c'est que d'abord... Les problèmes en Aveyron aujourd'hui sont exactement les mêmes que de l'autre côté de la France, dans la Somme ou à Brest ou etc. Bon, dont acte, mais qu'en plus, on peut quand même, à un moment donné, c'est surtout, je me tourne vers Catherine, l'histoire des postiers, qui nous en montre tout à fait la pertinence, on peut se regrouper, on peut lutter et on peut quand même encore gagner, même si ce sont des batailles et même si on est loin d'avoir gagné la guerre, bien sûr, comme on dit.
C'est ça, le postier parlait d'interdépendance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait une émission ensemble.
Ménage à trois. Manège à trois, c'est comme vous voulez. On aime bien les contrepétries aussi, hein. Donc si vous en avez d'autres, comme ça.
Méninge à trois.
Méninge à trois, voilà. Donc ça va brainstormer pendant un petit moment. Non, rien de mieux, Manu.
Non, je dis Alan Kébé.
Alan Kébé. Écric et crac, les contes et acabat. Merci à tous.
Salut à tous.